Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, maman va vous parler d'allaitement.
Bonjour à tous et bienvenue dans Naître et Grandir aujourd'hui, le podcast à destination des parents et des futurs parents. Nous allons donc parler allaitement. Pour ce premier épisode consacré à ce sujet, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur la façon dont l'allaitement se passe d'un point de vue physiologique et surtout de savoir comment vous préparer au mieux pour ce projet d'allaitement et vous aider dans votre décision d'allaiter ou non. Bonne écoute! Bonjour Hélène, je vais te demander de te présenter. Bonjour. Qui tu es, ton parcours pour commencer.
Je m'appelle Hélène Michelier, je suis infirmière puéricultrice de formation depuis 13 ans et j'ai travaillé 5 ans en onco-hématologie pédiatrique et puis après j'ai fait 8 ans de néonatologie. Et c'est vraiment en néonate que je me suis passionnée tout d'abord pour les soins de développement du bébé et l'accompagnement parental. Et puis, dans un second temps, est venu le sujet de l'allaitement, pour lequel je me suis formée pendant que j'étais en néonate, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait en fait pas mal de divergences de discours entre les différents professionnels et que ça pouvait être très compliqué pour les mamans de suivre des conseils, puisque une personne dit quelque chose, l'autre personne dit autre chose. Donc voilà, j'ai eu envie de me former particulièrement sur le sujet pour pouvoir uniformiser les discours et apporter une information fiable aux parents et faire en sorte que les équipes délivrent tous les mêmes conseils pour que les mamans puissent s'y retrouver, quoi.
D'accord. Et donc maintenant, tu travailles plus à l'hôpital par contre ?
Non, je travaille plus à l'hôpital, effectivement. J'ai quitté l'hôpital et je travaille dans une maison de santé pédiatrique. Dans laquelle je suis en lien avec les pédiatres et je suis une infirmière puéricultrice dédiée à la santé publique. Donc, j'accompagne sur des sujets de prévention et c'est des patients qui sont orientés par les pédiatres sur ma consultation en fonction des problématiques rencontrées.
D'accord. Et par rapport à l'allaitement, tu es consultante en lactation IBCLC, c'est ça ?
Alors, à côté de mon travail à la maison de santé, effectivement, je suis consultante en lactation, mais pas IBCLC. En fait, il y a deux diplômes dans les professionnels qui sont formés à l'allaitement. Il y a les professionnels qui ont fait la certification IBCLC, qui est une certification internationale. Et il y a les professionnels qui ont passé un DU, un diplôme universitaire. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'était le diplôme interuniversitaire en lactation humaine et allaitement maternel. DIULHAM, qui nous confère les compétences pour faire des consultations d'allaitement.
Ok, ça marche. Pour commencer sur le sujet de l'allaitement, je vais te proposer qu'on parle déjà un petit peu physiologie, comment ça fonctionne, parce que c'est quelque chose de naturel, mais je pense que la plupart des mamans et des gens ne savent pas vraiment comment ça fonctionne.
Oui, bah c'est pas mal de soulever le fait que c'est naturel, en tout cas le processus de produire du lait est naturel. Ce qui l'est moins souvent, c'est la façon de se positionner, etc., qui est un apprentissage pour la maman. Donc, c'est bien quand même de se préparer un peu en amont, de connaître certaines choses pour pouvoir être prêt le jour J, parce que oui, le lait, il va se produire tout seul, mais le reste, c'est bien d'être informé sur certaines choses. Donc, d'un point de vue production de l'allaitement, il y a deux processus. Il y a un processus hormonal qui rentre en ligne de compte dès le début, sur les premiers jours. Il faut qu'il y ait une production de deux hormones, principalement la prolactine qui va permettre la production du lait et l'ocytocine qui va permettre l'éjection du lait. Et en fait, c'est en mettant son bébé au sein le plus souvent possible que à chaque tétée, la maman va sécréter de la prolactine et de l'ocytocine. Et c'est ce qui va permettre de lancer la production du lait. Et une fois que le phénomène est lancé, donc souvent, il faut 2-3 jours, voire 4 jours pour que la production se lance. On a ce qu'on appelle la montée de lait. Et là, c'est un deuxième processus qui prend le relais. Évidemment, il y a le processus hormonal qui reste, qui est là. Mais c'est un processus plus local qui prend le relais et qui fait que le cerveau va donner l'information que le sein doit se re-remplir à chaque fois qu'il est vidé. C'est bien pour ça qu'il faut mettre son bébé au sein, on dit, à la demande. Puisque plus le sein va être vidé, plus l'information va être donnée de produire du lait. Et c'est ce processus local-là qui fait qu'il n'y a aucun allaitement qui peut être vraiment comparable entre une femme et une autre, parce qu'on n'a pas tous la même poitrine, c'est-à-dire la même glande mammaire. Donc ça n'a rien à voir avec avoir une petite poitrine ou une grosse poitrine, hein, mais on a tous une glande mammaire différente et ce qu'on appelle une capacité de stockage différente. Et la capacité de stockage, c'est la capacité qu'ont les alvéoles qui stockent le lait à se distendre. Et ça, on peut jamais le savoir à l'avance. On peut avoir une femme peut avoir une petite poitrine, par exemple, mais une très grande capacité de stockage, c'est-à-dire que les alvéoles qui stockent le lait vont pouvoir se distendre beaucoup par rapport à une autre femme qui aura une capacité moindre. Les alvéoles vont moins se distendre, donc moins stocker de lait. Mais à la fin de la journée, entre la mère A et la mère B, elles auront produit la même quantité de lait, simplement leur bébé n'aura pas eu le même nombre de tétés. Et donc, c'est bien pour ça qu'il n'y a pas un allaitement qui va se ressembler. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règles précises à l'allaitement en nombre de tétés. C'est propre à chacune, en fait, la façon de produire le lait. Et puis, il y a aussi le facteur bébé qui rentre en ligne de compte parce qu'il y a des bébés qui vont être avec une maman, par exemple, qui a une grande capacité de stockage et qui vont prendre des gros repas. Et puis, cette maman-là aura un deuxième allaitement avec un autre bébé qui, lui, préférera prendre des petits repas. Et ça montre bien que voilà, il y a aussi le facteur bébé qui rentre en ligne de compte dans l'allaitement.
D'accord. Donc, en soi, toutes les mamans donc, produisent la même quantité de lait. Donc, logiquement, il n'y a pas de mamans qui n'ont pas assez de lait.
Tout à fait. Il n'y a pas de mamans qui n'ont pas assez de lait. Les mamans qui n'ont pas assez de lait, c'est assez rare en fait. Souvent, il faut chercher, quand une maman ne produit pas assez de lait, souvent c'est parce qu'il y a un souci ou une optimisation à faire dans ce qu'on appelle la conduite de l'allaitement. C'est-à-dire qu'il faut regarder si effectivement elle limite pas les tétés en se disant bah ça fait que 1 heure qu'il a tété, il n'a pas besoin de retéter, etc. Souvent, il faut regarder de ce côté-là. Après, il y a des choses qui peuvent faire qu'on ne produise pas assez de lait, notamment une maman qui aurait été opérée des seins, principalement dans les réductions mammaires, par exemple, parce qu'en fait, on ne peut pas retirer que le.
La masse graisseuse.
Exactement, c'est le mot que je cherchais. On ne peut pas retirer que la masse graisseuse parce que c'est vraiment intriqué avec les glandes productrices de lait. Donc, en fait, quand ils retirent de la masse graisseuse, ils retirent aussi de la glande mammaire. Donc, ces mamans-là peuvent être confrontées à une insuffisance de lait. Mais du coup, ça ne veut pas dire non plus qu'elles ne peuvent pas allaiter. Rien n'empêche de se lancer dans l'aventure de l'allaitement et puis de voir ce que ça donne en ayant en tête que, possiblement, effectivement, cette maman-là, elle ne pourra peut-être pas allaiter complètement son bébé, mais elle pourra peut-être être sur un projet d'allaitement mixte. En tout cas, il faut l'avoir en tête que dans ce cadre-là, ça sera probablement pas un allaitement exclusif, bien que on peut pas trop le savoir. Et puis après, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle les hypoplasies mammaires. C'est vraiment, c'est donc pareil, c'est pas une petite poitrine, c'est vraiment un sein qui a une forme très particulière où il y a très peu de glandes mammaires. Où là, la maman peut être en difficulté de production de lait, mais c'est pareil, on peut pas savoir combien, donc, il faut mettre en route l'allaitement et puis voir un peu si on peut être sur un allaitement exclusif ou ce sera du mixte. C'est un peu les deux seules choses qui font qu'une maman va pas produire assez de lait. Et par contre, il y a très très peu de contre-indications à l'allaitement.
D'accord.
Même une maman qui a un traitement médical, souvent on peut trouver des alternatives de médicaments qui sont compatibles avec l'allaitement. Sauf dans les traitements lourds de, imaginons, chimiothérapie ou autre, où là, ça va être plus compliqué. Mais même une maman, par exemple, qui aurait eu l'ablation d'un sein, elle peut allaiter sur l'autre sein et on peut allaiter avec un seul sein. Pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel de santé qui est formé, justement, pour faire éventuellement le point, sur ce qui est possible, de faire, notamment quand on a une pathologie avec des traitements ou qu'on n'a plus qu'un seul sein. L'autre contre-indication, c'est quand le bébé est atteint d'une maladie assez rare qui s'appelle la galactosémie. C'est le bébé qui ne supporte pas une des substances du lactose. Et en fait, dans le lait maternel, il y a du lactose. Donc en fait, c'est la seule contre-indication concernant le bébé où là, bah, il ne peut pas allaiter. Et puis en France, il y a aussi toutes les mamans qui sont atteintes du sida, qui ont contre-indiqué l'allaitement, ce qui n'est pas le cas en Afrique ou ailleurs, parce que nous, ici en France, on a la chance d'avoir accès à de l'eau potable. Et pour reconstituer les biberons de lait artificiel, ce qui n'est pas le cas
Partout
dans
dans le
d'autres
monde.
pays. Voilà, partout dans le monde.
D'accord, ok. Au niveau de la physiologie du mécanisme de l'allaitement, il y a d'autres choses à dire ou globalement c'est bon pour
Non,
toi?
non, non, bah une fois qu'on a compris que c'était une histoire d'hormones au départ, et puis qu'ensuite le relais était pris par le sein en lui-même avec ce fait d'être vidé au maximum pour pouvoir se remplir. Non, c'est le principal. Et puis, il y a deux phases. Il y a la première phase qui est la phase colostrale, où c'est que du colostrum avant la montée de lait. Et puis, une fois qu'il y a la montée de lait, ben voilà, c'est l'allaitement comme on le connaît qui démarre. Et voilà, deux phases.
Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire quand on allait? Est-ce que quand on se dit qu'on voudrait allaiter, on faut se préparer à se dire, ça, je pourrais plus le faire pendant l'allaitement, ça va être reporté, ou au contraire, des choses qui sont conseillées pour favoriser l'allaitement?
Bah, en soi, il n'y a pas grand-chose à faire parce que, comme on le disait, c'est un processus physiologique. Donc, je pense que ce qui est important, par contre, c'est de s'informer sur quel est le comportement et le rythme d'un bébé. Parce que souvent, en fait, on a tendance à oublier que le bébé, qu'est-ce qu'un bébé, comment il se comporte. Si on ne le sait pas, on peut être facilement décontenancé. Et une fois qu'on sait ça, c'est plus facile. Donc, ce qu'il faut se représenter, c'est qu'un bébé, il était dans le ventre de sa maman et qu'il passait une grande partie de sa journée à téter et à déglutir du liquide amniotique. Et en fait, ce qu'il va essayer de retrouver quand il va naître, c'est de faire ce qu'il a toujours fait jusqu'alors, c'est de téter et de déglutir. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'allaitement est à la demande, voire même, on pourra entendre à l'éveil, un bébé qui commence à ouvrir grand sa bouche, à essayer de mettre ses mains à la bouche et à téter, il faut le mettre au sein de sa mère pour qu'il tète le sein et puis qu'il tète du coup le colostrum qui est en très petite quantité mais qui est très nutritif. Et c'est ce qui va donc permettre à la maman de produire, on a vu, les hormones qu'il faut, au bébé d'avoir des petites quantités de colostrum très régulièrement. Et donc voilà, donc un bébé, quand il naît, il va très souvent au sein, il va au sein entre 10 et 12 fois par jour, voire même pour certains, plus que 12 fois. Et c'est normal, c'est pas un problème.
D'accord.
Donc voilà, donc si on connaît déjà que ce comportement-là du bébé, d'être en recherche de la succion, c'est normal, c'est aussi plus facilement acceptable de mettre son enfant au sein à volonté.
À volonté, ouais.
Que si on se dit que c'est que parce qu'il a faim. Il faut oublier un peu cette histoire de faim, parce que souvent les mamans, ce qu'elles ont peur, c'est qu'il ait faim, qu'il n'ait pas assez à manger. Or, il n'y a pas que ça. En fait, il essaye aussi de retrouver des sensations qu'il connaissait in utero. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, je pense que s'informer sur le comportement, le rythme d'un bébé. Les bébés sont aussi plus agités en fin de journée qu'en début de journée. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est physiologique, qui est normal, et il faut s'attendre à ce que les bébés soient plus agités et aient besoin de téter plus en fin de journée et le soir. Donc voilà, s'intéresser et se renseigner sur comment se comporte un bébé et quel est son rythme. Se faire confiance dans sa capacité à allaiter, puisqu'on l'a vu, en fait, à partir du moment où on a une poitrine, finalement, le corps va être capable de produire du lait. Donc se faire confiance dans sa capacité à produire du lait, et puis faire confiance à son bébé dans le fait qu'il sait très bien ce qu'il a à faire. Parce que ça aussi, on est dans une société où on a eu tendance à vouloir tout un peu diriger, cadrer. Et en fait, chaque bébé est individuel, chaque bébé a un besoin plus ou moins important de succion. Et donc, il faut c'est facile de dire simplement suivre, parce que quand on débute en tant que parent, c'est pas évident d'avoir une confiance complète en ce tout petit être qui vient d'arriver, mais il faut quand même bien se représenter que le bébé, en fait, c'est un petit mammifère qui sait très bien ce qu'il a à faire. Et on n'a pas besoin, nous, de le régler ou de le cadrer ou de lui apprendre à faire, à manger ou quoi que ce soit. Il sait. Et il faut apprendre à l'observer et à l'écouter et à suivre ce qu'il nous dit. Et ça, c'est pas facile. On n'est pas issu de ça.
Non, c'est clair. Il a plein de capacités dès le début, mais c'est vrai qu'on ne l'imagine pas, en fait.
Exactement. Exactement. Parce que très longtemps, on a aussi pensé que le bébé, c'était juste un tube digestif et rien d'autre. En fait, c'est beaucoup plus complexe que tout ça.
Ça marche. Est-ce qu'à ce moment-là, tu veux éventuellement évoquer maintenant une maman qui va allaiter, est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne doit pas manger, des choses qu'elle doit manger, ce genre de choses?
Alors, il n'y a pas de restriction particulière sur l'alimentation. Elle peut remanger tout ce qu'elle veut, simplement se limiter un peu sur le café elle peut boire son café, hein, mais c'est bien d'être à 2 tasses par jour pour la caféine. Si c'est une maman fumeuse, comme pour la grossesse, hein, le moins c'est le mieux. Et puis éviter de donner le sein juste après avoir fumé sa cigarette. Et puis l'alcool, comme pour la grossesse, le mieux étant zéro alcool. Surtout sur les débuts, parce qu'en fait le bébé a un rythme tellement anarchique de tétée que c'est impossible de savoir quand est-ce qu'il va véritablement retéter. Mais quand le bébé a un peu plus on se rend compte que le bébé est un peu plus rythmé dans ses tétées, faut savoir simplement que la dose d'alcool, ça va être la même dans le sang que dans le lait. Donc il faut au moins 3 heures pour éliminer un verre de vin. Donc voilà, soit on prévoit d'avoir un biberon, si on sait qu'on va boire ou quoi, soit prévoir un biberon, soit on a un bébé dont on est presque sûr que...
Les 4 prochaines heures, c'est bon, il ne devrait pas manger.
Il faut aussi se détendre sur la question. Si la maman boit une gorgée pour trinquer d'une coupe de champagne pour la naissance de son enfant, comme le taux d'alcool est le même dans le sang que dans le lait, c'est pas la gorgée de champagne qui va faire que elle va empoisonner son bébé.
D'accord, ça marche.
Et on peut optimiser comme pour la grossesse, par contre, l'alimentation avec 2 poissons gras ou un apport d'oméga 3 varié avec les huiles et autres.
Ok. Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup, on trouve en magasin des tisanes qui favorisent l'allaitement et compagnie, est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que c'est juste du marketing d'après toi?
Ça n'a pas grand intérêt, ça va avoir un intérêt éventuellement de soutenir ce qui est déjà en place, mais ça ne va pas avoir un intérêt à augmenter la production du lait. Puisqu'on l'a vu, ce qui va augmenter la production du lait, c'est le contrôle local au niveau même de la glande mammaire, c'est-à-dire le fait que plus elle se vide, plus elle va donner l'information qu'il faut qu'elle se re-remplisse. Donc globalement, tout ce qui est tisane, complément alimentaire classique ou ce qui est toute l'alimentation qui est maintenant faite pour les femmes enceintes en soutien avec du fenouil et tout ça, c'est très bien, mais ça va vraiment être simplement du soutien. Et ça ne va pas aider à l'augmentation de la production du lait, sauf certains aliments très particuliers galactogènes qu'on va indiquer à un dosage bien précis dans le cadre d'une relance de lactation, où là, ça va être efficace parce qu'on est sur un nombre de grammes assez important pour permettre justement de ne pas avoir que ce rôle de soutien, mais aussi un peu plus. Donc, mais bon, tout ce qu'on trouve dans le commerce en vente libre, c'est juste du soutien.
Ça marche. Après, en soi, de boire des tisanes, ça permet de boire et de s'hydrater et c'est aussi important. Donc, ça peut aider les mamans à boire plus.
Oui, mais là aussi, il y a une idée reçue avec l'hydratation. Ça ne sert à rien de s'obliger à boire 2 litres d'eau par jour pour produire du lait. Une maman qui allaite, en fait, a un peu plus soif. Donc, en fait, il faut simplement écouter sa soif. Mais il ne faut pas s'obliger à boire pour produire du lait parce que ça ne sert à rien.
D'accord. Donc oui, juste si on a soif, on boit quoi.
Voilà, comme dans la vie finalement, hein, notre corps de toute façon a besoin d'eau. On le dit quoi qu'il arrive, c'est pareil avec l'allaitement. Il n'en a pas besoin de plus parce qu'on allaite. Simplement, oui, on peut avoir un peu plus soif parce qu'on allaite et donc on écoute son corps.
Ok, ça marche. Est-ce que d'un point de vue alimentaire, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on entend parfois que les mamans qui allaitent vont perdre leurs kilos plus vite parce qu'elles brûlent plus de calories, elles ont plus faim. Est-ce qu'il y a des choses, il faut manger un peu plus parce qu'on allaite ou c'est pareil, on écoute juste sa faim et son corps.
Comme tu dis, hein, on écoute sa faim. Il est par contre vrai que le processus de lactation fait qu'une maman allaitante dépense plus de calories parce qu'elle produit du lait. Donc, il y a certaines femmes qui remarquent qu'elles perdent plus facilement leur kilo, mais d'autres pas forcément. Donc là, il n'y a pas d'études qui montrent que véritablement, en allaitant, c'est assuré qu'on va perdre plus facilement. Mais il y a un certain nombre de femmes qui remarquent qu'elles perdent plus facilement, voire même certaines qui perdent un peu plus que ce qu'elles ont pris pendant la grossesse. Donc, on trouve un petit peu tous les cas de figure. Mais oui, le processus de lactation fait qu'on dépense un peu plus de calories, donc il se peut que on ait besoin d'une alimentation, alors pas forcément plus, mais en tout cas de qualité, quoi.
Oui, c'est un peu comme pendant la grossesse, c'est pas manger deux fois plus, c'est manger deux fois mieux, quoi.
Exactement, c'est ça.
Ok. Bon, alors, a priori, pour l'allaitement, on est d'accord, à part de ces seins, on n'a pas besoin de grand-chose, mais est-ce qu'il y a quand même éventuellement des petites choses à prévoir pour la maternité, au cas où?
Bah, dans le pratico-pratique, prévoir plutôt des brassières d'allaitement ou des soutiens-gorge sans armature, en tout cas quelque chose sans armature, parce que, bon, déjà, pendant la grossesse, normalement, les femmes ont une augmentation du volume de leur poitrine. Donc, dès cet instant-là, elles peuvent déjà acheter des soutiens-gorge, si elles ont le projet d'allaiter, elles peuvent déjà acheter des soutiens-gorge sans armature et qui pourront leur aller. Alors, quand il y a la montée de lait, il faut bien se représenter que ça va encore augmenter. Mais ça, c'est sur le temps, les premiers temps. Et puis, après, quand les choses se mettent en place, les seins sont quand même beaucoup moins énormes et tendus. Donc, on peut revenir à la taille qu'on faisait en fin de grossesse. Voilà, prévoir des soutiens-gorge ou brassières sans armature pour le confort, en fait. Pour le confort de pas être comprimé. Le bébé va aller au sein très régulièrement sur le début, hein, je disais au moins 10, 12, 14 fois par jour. Donc, le mamelon n'est pas habitué à avoir cette sollicitation. Donc, on peut prévoir une crème qui va permettre une bonne hydratation du mamelon, donc soit une crème à base de lanoline purifiée, soit une crème à base de miel stérile, qui, elle, cette crème-là à base de miel stérile, va être un peu plus polyvalente que la première, parce que le miel, c'est ce qui permet donc la cicatrisation, donc cette crème-là, elle va permettre d'hydrater et d'aider à la cicatrisation si on a par exemple un début de crevasse. Mais dans tous les petits désagréments du postpartum, si on a une épisio, une déchirure, une éraillure ou même une cicatrice de césarienne, cette crème au miel stérilisée, il va aussi pouvoir être appliquée à ces endroits-là pour aider à la cicatrisation. Donc voilà, c'est un peu les deux options qu'on a en termes de crème. Et puis, pour s'installer confortablement, si la maman avait déjà investi dans un coussin de grossesse, ou coussin d'allaitement, elle peut l'amener avec elle pour favoriser un bon positionnement, parce que justement dans les crevasses, c'est aussi le positionnement qui va beaucoup jouer, donc il faut vraiment pas hésiter à s'installer confortablement. Et elle peut prévoir des coussinets d'allaitement, mais alors pas forcément en grande quantité, parce qu'en fait il y a des femmes qui n'en auront pas besoin. On s'en rend compte au moment de la montée de lait, quand les choses se mettent en place, de si on a les seins qui coulent plus ou moins entre les tétés ou quand l'enfant tète un côté, pas l'autre. Enfin, mais ça, c'est vraiment, vraiment en fonction des femmes. Il y a des femmes qui n'en ont pas besoin, il y a des femmes qui en ont beaucoup besoin. Donc, ça dépend de notre façon de produire du lait qui est propre à chacune.
À chacune. Ouais. Ça marche. Très bien. Alors, si une maman hésite, elle a une envie elle a envie d'allaiter, mais elle hésite encore pendant la grossesse, elle peut en parler évidemment peut-être à sa sage-femme, mais est-ce que la sage-femme est finalement, est-ce qu'elles sont toutes formées ou est-ce qu'il vaut mieux aller voir un professionnel comme toi, puéricultrice qui a le DU ou une consultante, est-ce qu'elles font ça en amont en fait pour préparer ou c'est que ça vienne que après?
C'est vraiment propre à chacune. En tout cas, les sages-femmes ont une formation en allaitement initial hein, qui permet de donner toutes les informations de base par rapport à l'allaitement. Moi, je sais que dans les consultations que je fais de préparation à l'allaitement, souvent, c'est souvent des mamans qui ont déjà eu une première expérience et qui se sont rendues compte que les informations qu'elles avaient eues étaient finalement pas suffisantes pour mettre en place sereinement l'allaitement. Et du coup, elles prennent plus d'infos sur le second allaitement, parce qu'il est vrai que quand on est face à un professionnel de santé qui est formé plus spécifiquement, eh ben, on va pouvoir donner des informations plus spécifiques, plus détaillées, et puis des petites astuces pratico-pratiques en plus, qui sont pas connus en fait quand on fait la formation initiale, ce qui est d'ailleurs dommage que les informations ne viennent pas plus rapidement dans les formations de base. Mais voilà. Donc après, c'est à voir quel est le projet à cette maman, quel besoin elle ressent à ce moment-là. Il y a aussi des livres qui existent, mm-hmm. qui sont très bien faits pour parler de l'allaitement. Donc, voilà, voir comment elles ont envie de s'informer.
Ok. Est-ce que tu as du coup un nom de livre que tu es amenée à conseiller, toi, ou plus particulièrement ou
Il y en a un qui est assez sympa, c'est Petit manuel illustré de l'allaitement, je crois qu'il s'appelle.
D'accord.
Comme ça. Qui est justement illustré et de manière un peu humoristique aussi, donc c'est, et les
facile
informations à l'intérieur sont très fiables, donc c'est plutôt sympa à lire. Donc oui, je dirais celui-là pour avoir pour avoir un truc pas trop, enfin un peu sympa à lire et qui dedans il y a tout ce qu'il faut quoi comme information.
Ok. Quelles sont les choses à éviter pour que son allaitement commence bien et donc que ça se poursuive bien après?
Je dirais finalement la seule chose, ça va être de limiter les tétés et l'accès au sein. C'est d'avoir trop l'œil sur la montre, entre guillemets, et de se dire « Ah bah ça fait qu'une heure qu'il n'a pas tété et c'est pas ça dont il a besoin. » En fait, on ne peut pas savoir combien l'enfant prend au sein. Et donc, en ça, la maman est obligée de faire confiance à son bébé et aux signaux qu'il va lui donner. Donc, même si ça fait qu'une heure que son bébé a tété, mais qu'il a l'air de réclamer, eh ben, il faut toujours proposer le sein en premier. Alors, peut-être que ce n'est pas ça qu'il veut, effectivement. Et dans ce cas, si ce n'est pas ça qu'il veut, il va aussi vous le signifier. Mais au moins, il faut proposer. Et puis, l'enfant dispose. Voilà, surtout dans la période de départ, de calibration, sur le premier mois, il faut vraiment avoir un accès illimité parce que c'est là où la production du lait va se mettre en fonction des besoins qu'a le bébé. Et puis même après, pour que ça se poursuive correctement, il faut suivre son bébé. Il y a des jours où il va être un peu plus rythmé, d'autres jours où il le sera beaucoup moins, on appelle... T'as les poussées de croissance, il y a des périodes où en fait le bébé va téter plus. Mmh. Et donc en fait faut vraiment se mettre en tête qu'il n'y a pas de règles et que il faut répondre aux besoins de son enfant. Mmh. C'est un peu la règle d'or.
D'accord. Fait. Donc si on veut que son allaitement démarre bien, quand la sage-femme vient à maternité et qu'elle nous propose de prendre le bébé pendant la nuit pour qu'on se repose, ce qui est très sympa. Et qu'elle va donner des biberons, à ce moment-là, il faut dire non.
Exactement. Exactement, parce que toute tétée qui va être sautée, faire que le sein sera finalement plus rempli. Et l'information d'un sein rempli va être, attention, donnée au cerveau, va être, attention, le sein est rempli, donc il faut ralentir la production du lait. Et donc, en fait, ce n'est pas ce qu'on veut, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit... L'offre, ce qu'on appelle l'offre et la demande, c'est que plus le sein est vidé, plus il va se re-remplir. Donc, si on saute des tétés parce qu'on a voulu faire patienter son enfant, parce qu'on s'est dit « Ah mais non, ça fait pas 3 heures, c'est pas l'heure », et bien là, on risque de mettre à mal notre lactation. Et puis, pareil, pour effectivement, si on veut... Il y a des mamans qui veulent faire participer le papa aussi et qui préfèrent qu'il donne un biberon de lait la nuit ou autre. Alors ça, c'est tout à fait possible. Tout est possible en fait dans l'allaitement. Il faut juste avoir conscience que possiblement, ça peut avoir un impact sur la lactation en fonction du nombre de biberons que l'enfant va recevoir. C'est pour ça que les allaitements mixtes, par exemple, on va plutôt proposer à la maman, pareil en fonction de son projet, si elle veut allaiter en mixte pendant X mois, pour être sûre que la lactation se lance bien, il faut au moins faire la période de calibration en exclusif. Et une fois que ça s'est bien calibré, ajouter un ou deux, je ne sais pas, le rythme que la maman veut, tout en ayant conscience que peut-être, en fonction de sa capacité de stockage, ça on ne peut pas le savoir avant, ça va avoir un impact plus ou moins important sur sa façon de produire du lait et qu'elle ne pourra peut-être pas allaiter en mixte pendant 6 mois parce que la lactation va peut-être trop chuter. Et peut-être qu'elle pourra. Mais en tout cas, c'est des choses dont il faut avoir conscience quand on a le projet d'allaiter, savoir qu'est-ce qu'on veut.
Oui. Est-ce qu'on veut allaiter pendant 2 ans ? Est-ce que c'est juste le temps du congé mat ? Est-ce que forcément, ce n'est pas les mêmes... En fonction de la durée d'envie d'allaitement, les conséquences ne sont pas les mêmes, quoi.
Exactement. Il y a des mamans qui projettent d'allaiter seulement le temps du congé maternité, 2 mois et demi, ce qui est quand même finalement court. bah, ça ne va pas être les mêmes conseils qu'on va pouvoir donner là que si la maman veut allaiter 6 mois. Donc voilà, là quand on a des projets qui sont un peu précis comme ça, il vaut mieux par contre se diriger vers un professionnel qui est formé en allaitement et qui pourra vraiment adapter le conseil au projet de la maman.
D'accord, oui, on peut faire un projet allaitement comme on fait un projet de naissance pour la maternité.
Oui,
ça pourrait être proposé.
Prendre les renseignements en fonction de son projet et se diriger plus ou moins vers un professionnel qualifié en fonction.
Ça marche. Écoute, alors moi, j'ai une dernière petite question. C'est un truc que je vais demander à tout le monde à chaque fois. C'est est-ce que tu as un petit truc, une petite astuce qui te fait tenir dans tes journées trépidantes de maman et d'infirmière puéricultrice? J'en sais rien. Est-ce que c'est d'aller faire du sport une fois de temps en temps? Est-ce que c'est de boire une tisane le soir? Est-ce que, voilà, un petit truc quand il y a un petit coup de mou qui permet de repartir?
Je dirais me prendre effectivement un temps off quand j'ai besoin, oui, c'est ça. Alors, pas forcément la tisane, mais ça peut être juste aller me balader seule. Sans être sollicité par qui que ce soit. Prendre un bain, tranquille.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Mon invité et moi-même espérons avoir répondu à bon nombre de vos questions. Si malgré tout des questions restent en suspens, sachez que le prochain épisode qui sortira dans 15 jours sera à nouveau consacré à l'allaitement. Nous y aborderons les difficultés que peuvent rencontrer les mamans pendant leur allaitement et vous aider à savoir comment y remédier. Vous pouvez aussi vous rapprocher d'un professionnel spécialisé près de chez vous. Les listes de référencement des professionnels qualifiés sont dans la bio. En attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, prenez soin de vous et de vos bouts de chou. Je laisse maintenant le mot de la fin à ma fille.
Merci d'avoir écouté ma maman et son invité. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à partager.